avec les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont des jeunes, sont totalement irresponsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Allô, bonsoir.
Qu'on vous entend, je ne suis pas sûre.
Si, c'est bon. Allô.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h02 et c'est l'heure du Canu Info. Alors,
on entend un petit peu de musique derrière et là, on ne l'entend plus.
C'est super. Parce que le 24-24 était resté encore un petit peu en fond. Du coup, vous êtes bien sur le Canu Info du lundi, il est 19h02. Et au programme ce soir à l'international, on va aller faire un tour du côté de la Guinée. Puis ensuite, on va parler un peu de l'Espagne et de l'extradition d'un rappeur espagnol refusé par la Belgique aujourd'hui. Ensuite, on va parler d'une grève des prisonniers aux États-Unis. Puis, pour ce qui est de l'info nationale, on va revenir sur le plan pauvreté, sur l'affaire Benalla dont on n'a pas encore parlé, et de la répression des cheminots qui continue du côté de Lille cette fois-ci. Pour l'info locale, on va parler du Cyrus et de la discrimination homophobe. Du rassemblement de soutien qui aura lieu jeudi pour les enfarineurs de Kimmelfeld. Et ensuite, on aura un dossier sur la loi Elan.
C'est parti donc pour l'international.
Alors, on sait que plus souvent, pendant les campagnes électorales, les candidats qui participent à ces compétitions démocratiques livrent des discours dont les citoyens ont envie d'entendre. Sauf qu'une fois au pouvoir, ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Et quand ces citoyens demandent à ces dirigeants... Et quand on sait que quand ces mêmes citoyens demandent à ces dirigeants de respecter ces promesses, ils ne sont pas écoutés. Et quand ils décident de sortir dans l'espace public, pour réclamer ces droits, des hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, entretenus par le même peuple, n'hésite pas à utiliser ces armes à feu pour disperser les manifestants. Malheureusement, c'est comme ça se passe dans beaucoup de pays africains, plus particulièrement en Guinée. On sait que depuis l'avènement du président Alpha Condé au pouvoir en 2010, 93 jeunes ont perdu leur vie pendant les manifestations politiques. Seulement avant-hier, 7 personnes ont succombé sous les balles de la police à Mandiana, au nord du pays. Plusieurs autres personnes ont été blessés par balles et d'autres sont arrêtés. Ils étaient plusieurs jeunes à descendre dans les rues de Mandiana pour dénoncer les promesses des campagnes non tenues du président Condé. Les jeunes exigent les infrastructures de base et de l'emploi. Historiquement, vous savez, l'indépendance de la Guinée s'est fêtée à Conakry, mais avec l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, cette fête cette fête a commencé à tourner dans les quartiers, dans les quatre régions. À l'occasion de cette fête, le gouvernement promet de construire des infrastructures, sauf que ces infrastructures ne sont jamais réalisées. Si on reste toujours dans le cadre de cette manifestation qu'a organisée ce jeune de Mandiana, il demandait l'achèvement des chantiers entamés à l'occasion de la fête tournante de l'indépendance nationale célébrée à Cancan. Est-il, on se pose la question, est-il le prix à payer quand on demande à celui qui a promis de respecter sa promesse? Oui, c'est ça la réalité en Guinée. Il faut savoir que ce président avait promis à la population de cette localité de construire de plusieurs infrastructures. Notamment, on peut citer des maisons de jeunes, le bloc des professeurs. Et toutes ces promesses n'ont pas été respectées par le président. La grande mosquée aussi de la ville, de cette ville de Cancan, et non achevé depuis 7 ans. Ça aussi, c'est le président qui avait promis. C'est lui-même qui avait initié ce projet, sauf que jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il avait promis aussi de construire des ponts dans cette région, parce que vous savez aussi, cette région est un peu enclavée, donc il fallait construire des routes pour que voilà, des gens qui habitent à Conakry ou dans d'autres régions puissent aller dans cette région. Sauf que tout ça n'a pas été respecté. Donc on pourrait dire, moi personnellement je pourrais dire, je ne sais pas si on pourrait dire que la gouvernance d'Alpha Condé est une gouvernance de promesses, mais je pourrais dire tout simplement que le chef d'État a habitué à ses compatriotes à des discours de promesses mais qui ne seront jamais réalisés. On sait que c'est une stratégie pour les politiques et les pouvoirs publics de tisser avec les citoyens une proximité étroite, une essence directe et une communication accessible pendant les campagnes électorales. Les interventions de M. Condé sont rythmées chaque fois par des promesses très extravagantes. Tantôt, il promet une tablette à chaque étudiant, tantôt une machine à coutrière. Quelquefois, c'est une usine de chip qui va immerger dans le Fouta Diallon profonde. C'est une région aussi de la Guinée. Récemment, il a annoncé vouloir sortir plus d'un million de femmes de la pauvreté sans donner aucun début d'explication sur les modalités de la mise en œuvre de cette noble promesse.
On dirait oui. Le plan pauvreté d'Emmanuel Macron.
Oh. Ah, non, mais sauf que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand on voit la réalité d'ici et là-bas. Donc, je sais qu'il y a vraiment un grand fossé. Oui, on pourrait dire que toutes ces promesses n'ont pas été réalisées. Puis plus tard, quelques jours après, il a promis aussi de contrôler chaque ville, chaque maison du pays afin de s'assurer l'identité du propriétaire. Quant à Conakry, la ville est appelée à être le petit New York, mort de rire. Le président promet au rythme de son vocabulaire et les Guinéens, comme tous avec, ne voient rien venir. À mon avis, ce chef d'État doit ressaisir et réfléchir pour les 18 mois qui lui restent au pouvoir, de pratiquer vraiment une démocratie dans ce pays et une gouvernance crédible fondée sur moins de paroles mais plus sur de concret. Le pays et le peuple manquent de tout et les promesses présidentielles totalement déconnectées de la réalité quotidienne contribuent à installer et à instaurer un climat de méfiance et de défiance à l'égard du pouvoir politique, car on a vu les élections locales qui ont été organisées en février 2018 et il n'y a pas eu de participation. Donc tout le monde connaît maintenant les réalités et les discours que promet les présidents. C'est pas fini, hein. Je vous dis juste que avant de terminer, j'ai envie de dire pour terminer, quand le travail est bien fait, il finit toujours par se faire voir et se faire entendre sans sirène ni phare. Mais sans du concret, les promesses et les discours populistes ne servent qu'à desservir le premier concerné. Alors plus de morts pendant les manifestations politiques.
Et on va du côté de l'Europe cette fois-ci. Voilà, vous voulez un peu parler de l'Espagne où, pour fêter la fin de la Vuelta, les députés espagnols ont enfin consenti à exhumer la dépouille de Franco, qui se trouve donc encore présentement dans un mausolée gigantesque construit par Franco lui-même. Un monument devant lequel on a encore pu voir ce 15 juillet tout un tas de mecs très très sympas faire des saluts franquistes pour protester justement contre le déplacement de la dépouille du si charmant chef d'État que fut Franco. Alors pour rappel, hein, c'est Franco qui a restauré la monarchie et mis sur le trône Juan Carlos, le papa de Felipe, l'actuel roi d'Espagne. Et alors parmi les invités de cette petite sauterie manif du 15 juillet, on a pu voir ce cher Louis de Bourbon, toujours dans les bons coups monarchiques. Ce qui m'a par ailleurs permis de découvrir que ce cher Louis de Bourbon donc était président d'honneur de la Fondation Franco. Oui, parce qu'il existe toujours une fondation Franco. Ma curiosité piquée au vif, j'ai quand même cherché s'il n'existait pas une fondation Mussolini, mais non, pas encore. Alors, Henri d'Orléans et Jean-Christophe Napoléon, si vous m'écoutez, je pense qu'il y a un bon filon pour enfin bouter ces Bourbons hors de France. Bon, en vrai, au départ, c'était pas du tout de ça dont je voulais parler. Puisque je voulais parler de du refus d'extradition de la Belgique du rappeur espagnol Valtonyc, qui a été condamné l'an dernier à 3 ans et demi de prison ferme pour apologie du terrorisme, injure à la couronne et menace. Alors je cite quelques-unes des paroles incriminées. Qu'ils aient peur comme un garde civil au Pays Basque. Ils n'ont pas trop aimé la référence à l'ETA apparemment.
C'est une bonne blague.
Non, ça va en plus. Ouais. Ou le roi a un rendez-vous sur la place du village, une corde autour du cou. Voilà, donc en Espagne...
Ça aussi, c'est une bonne blague.
Ça c'est 3 ans et demi de prison ferme. Par contre, tu peux tranquillement violer une meuf avec tes potes, te filmer en train de le faire et rester en liberté. Toujours aussi sympa, hein, la justice, ici comme ailleurs. Donc bref, Valtonyc a décidé de partir avant que la police vienne l'enfermer. Et petite victoire pour lui, en tout cas, le délit pour lequel il a été condamné n'existant tout simplement pas en Belgique où il s'est réfugié, la justice belge a décidé de ne pas l'extrader. Et bah, comme les Bourbons devraient déjà plus exister depuis longtemps, on a voulu passer un petit son de 13 rappeurs espagnols en soutien justement à Valtonyc et qui s'appelle Los Borbones son unos ladrones. On écoute.
Rapear no es delito, en las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón, macho fiel, Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito, mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Si un plata subaim perquè creïm que un canvi és possible.
Mos voldrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat abaciga.
Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego, siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión.
Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas
y yo por la poesía con duerme en las cunetas.
Tomaremos su calle estilo Black Bloc.
Ocuparé Maribel a un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza.
Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija.
La hija de su amante recuerda cazas de elefantes.
Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguche es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de elefante.
Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey, dentro de muy poquito y si sigue así la ley habrá más rappers en España. España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones.
Libertad, libertad, libertad.
libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callaremos, no callaremos.
No callaremos.
No callaremos, co.
No callaremos.
Por la insurgencia,
Baltonic,
Cell.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición que no son ni a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons.
Et nous revoilà avec la grève des prisonniers aux États-Unis.
Oui, alors l'info date un peu, mais c'était un petit peu dommage de ne pas en avoir parlé. Puisque le 9 septembre dernier s'est achevée aux États-Unis une grève de prisonniers qui a duré 19 jours. Par cette grève, les prisonniers ont dénoncé entre autres leurs conditions d'incarcération et le nombre croissant de décès en prison dont les causes sont incertaines. Ils demandaient la fin des traitements différenciés lors des procès en fonction des couleurs de peau des accusés et des victimes. Ils réclamaient la fin de la peine de mort par emprisonnement, ce qui est une belle formule pour parler de la prison à vie. Et enfin, ils demandaient la fin de l'esclavage. Oui, de l'esclavage. Vous pensiez peut-être que l'esclavage avait été aboli aux États-Unis en 1865 avec le 13e amendement de la Constitution américaine. Mais en fait non, puisque l'amendement précise que ça reste autorisé, et je cite, « comme châtiment d'un crime pour lequel la partie a été dûment condamnée ». Parce que quand même, l'esclavage, il y a des gens qui le méritent. Et donc, il est tout à fait légal de faire travailler gratuitement des prisonniers si la loi de l'État dans lequel ils se trouvent ne l'interdit pas explicitement. C'est le cas de l'Alabama et du Texas, où les prisonniers sont contraints à travailler sans compensation financière. Il y a bien sûr des États où ce n'est pas légal, et dans ces États, le salaire moyen des prisonniers est de 86 centimes de l'heure, salaire sur lequel l'administration pénitentiaire retire un pourcentage comme participation aux frais de la prison. Ce travail est parfois obligatoire, parfois seulement fortement encouragés pour obtenir un certain confort au sein de la prison. Les prisonniers peuvent être directement embauchés par l'administration pénitentiaire pour tondre la pelouse, faire le ménage ou la vaisselle, et donc faire tourner eux-mêmes l'administration qui les prive de leur liberté. Mais le plus souvent, ils sont recrutés par des sociétés privées qui installent des locaux et des usines de montage au sein des prisons. Parmi ces entreprises, on retrouve IBM, Microsoft, Texas Instruments, Motorola, Boeing, McDonald's et beaucoup d'autres. Parce que des prisonniers aux États-Unis, il y en a beaucoup. Ben oui, une main-d'œuvre à si bas coût, ça incite à enfermer les gens. Les prisonniers américains représentent 25% des prisonniers dans le monde, alors que la population totale américaine ne représente que 5% de la population mondiale. C'est 2,2 millions de prisonniers dont le travail peut être exploité gratuitement ou presque. Et pour rappel, la population noire est surreprésentée dans les prisons, puisqu'elle constitue 40% des prisonniers et seulement 13% de la population américaine. Les dates de début et de fin de grève ont été choisies en référence à deux événements. Le 21 août, jour d'anniversaire du meurtre du Black Panther George Jackson en 71 alors qu'il tentait de s'évader, et le 9 septembre, anniversaire du grand soulèvement de la prison d'Attica à New York en 1971 aussi, soulèvement massivement réprimé par le sang par Nelson Rockefeller. Alors en fonction des prisons, les détenus ont soit arrêté de travailler, soit organisé des sittings, soit entamé une grève de la faim, soit boycotté les magasins d'intendance des prisons. Comme les informations traversent mal les murs des prisons et que les grévistes ont très souvent été immédiatement punis par l'isolement et l'interdiction de communiquer avec le monde extérieur, il est difficile d'estimer l'ampleur du mouvement. Mais la grève similaire de 2016 avait mobilisé 1% des prisonniers, ce qui en fait est déjà beaucoup pour un mouvement de grève de détenus, puisque la répression les touche bien plus directement et bien plus facilement qu'elle ne touche les mobilisations extérieures. Et pour la grève de cette année, les syndicats de prisonniers et les associations qui les supportent estiment qu'elle a au moins égalé le mouvement de 2016 et l'aurait même surpassé, puisqu'elle aurait touché 17 États contre 12 en 2016, ce qui en ferait le mouvement de grève de prisonniers le plus étendu de l'histoire. Pour finir, on va parler un tout petit peu de la France où certes, cette fois, le travail forcé n'est pas autorisé. Les prisonniers travaillent donc en théorie s'ils le veulent seulement, mais en pratique, c'est presque une obligation pour ne pas se contenter du minimum fourni par la prison en termes d'équipement et d'alimentation et pour ne pas être un poids pour sa famille à l'extérieur vu que ce sont rarement les plus riches qui se retrouvent en prison. Une partie de l'argent qu'ils gagnent ne leur sera donnée qu'à leur sortie et ils peuvent avoir l'obligation de verser une partie de leurs revenus à une association d'aide aux victimes. Et le minimum horaire n'est qu'à 1,54 euros par heure de travail. Bref, chez nous aussi, la prison, c'est surtout l'occasion d'exploiter encore plus.
Oui, et surtout, la prison est remplie de pauvres en général, ce qui nous fait une superbe transition.
Et oui, car figurez-vous que Macron aurait découvert qu'il existait des pauvres. Incroyable. Donc il a décidé, enfin on va voir que c'est pas tout à fait le cas, mais il a décidé donc de mettre en avant, de manière surmédiatisée, un plan pauvreté. Alors, ce plan pauvreté, bon, il en a fait tout un pataquès, c'était jeudi dernier, pendant 1h30 au Musée de l'Homme, où il a fait de très longues tirades sur les enfants qui ont faim à l'école, sur les allocataires du RSA désespérés, etc., etc. D'ailleurs, ces allocataires du RSA, on va le voir, sont désespérés à cause du labyrinthe des administrations, et donc il va falloir fusionner tout ça pour que ce soit plus simple pour ces RSistes désespérés. Alors, ce plan pauvreté, ça fait plusieurs mois qu'il est dans les petits papiers. Ça permet en cette rentrée de surmédiatiser donc un petit virage à gauche pour tenter de faire oublier les différentes attaques antisociales du début du quinquennat et celles à venir qui sont très nombreuses. Alors, donc ce plan pauvreté, hein, c'est 8 milliards d'euros sur 4 ans. Alors, qui vont aller dans le développement des crèches, tant mieux, des modes de garde et de leur prise en charge pour les familles défavorisées qui ont très peu accès. Il y aura aussi un plan de formation des professionnels de la petite enfance pour favoriser l'apprentissage de la langue française avant l'entrée à l'école primaire. Il y aura des distributions gratos de petits-déj dans les écoles des zones défavorisées. Tant mieux. Et certaines mesures en faveur de l'emploi des jeunes et surtout donc la simplification, je cite, du maquis des aides sociales que le gouvernement donc envisage de fusionner dans le cadre d'un revenu universel d'activité. Alors c'est joli, hein, un maquis des aides sociales qu'il faudrait simplifier. Tout ça pour un revenu universel d'activité. Alors, faut quand même se rappeler ou savoir que Macron, il se base sur le modèle allemand pour sa future réforme de l'assurance chômage et notamment la fusion du RSA et des aides sociales. Et en Allemagne, donc, ce qu'on appelle ça les job centers, hein, c'est les services de l'indemnisation chômage et des aides sociales qui ont fusionné. Et maintenant, aujourd'hui, en Allemagne, hein, enfin depuis même plusieurs années, puisque c'est, pour rappel, hein, c'est le gouvernement de Gerhard Schröder, donc la social-démocratie et les Verts en Allemagne au début des années 2000, hein, qui ont mis ça en place. Donc, par exemple, tu viens pas à une convocation. Si tu refuses une proposition d'emploi, ça dépend des job centers, mais tu peux te faire supprimer, par exemple, des allocations familiales, tu peux te faire supprimer une partie de tes allocations chômage, etc. Ou encore, en cas de demande d'aide d'urgence, les job centers ont un droit de regard sur à peu près toute ta vie, compte en banque, achat, déplacement, vie familiale ou même amoureuse. Oui, même amoureuse. Alors, fin 2016, hein, c'était dans un article du Monde Diplo de l'année dernière, hein, le Job Center de Stade, en Basse-Saxe, a adressé un questionnaire à une chômeuse célibataire, enceinte, la priant de divulguer l'identité et la date de naissance de ses partenaires sexuels. Le Job Center, c'est une usine à contrôle social, c'est aussi une usine à travailleurs pauvres. Depuis que les Job Centers ont été mis en place en Allemagne, eh bien, le chômage a diminué, mais le nombre de travailleurs pauvres a explosé et les allocations chômage ont, elles, beaucoup diminué. Donc on a vraiment hâte, dans le cadre de ce plan pauvreté, d'avoir ce revenu universel d'activité, toutes ces fusions qui vont permettre à tous ces RSistes désespérés de sortir de ce maquis des aides sociales, vraiment. Alors, et puis 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est au regard de ce début du quinquennat? 16 milliards d'euros de filets aux plus riches par rapport à l'ISF sur l'achat de yachts ou d'avions ou de jets privés. 38 milliards d'euros, rappelez-vous, le CICE, ce fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui d'ailleurs était censé créer de l'emploi et qui n'en crée toujours pas, mais par contre qui a permis d'en foutre plein les poches aux actionnaires et aux grands patrons. Donc déjà, rien que ces deux trucs-là, on est à 54 milliards d'euros qui vont directement dans la poche des grands patrons. Et surtout, ces 8 milliards. Ces 8 milliards, eh bien, ces nouvelles aides prévues, elles seront en fait financées notamment par la baisse de certaines allocations sociales, comme les pensions, les APL. En bref, elles sont payées par d'autres pauvres. Donc, quand les pauvres qui deviennent plus pauvres financent très faiblement d'autres pauvres, eh ben, ça fait toujours autant de pauvres. Donc, ce plan pauvreté, on a quand même quelques doutes. Bon, en fait, ce plan pauvreté, c'est un plan d'enfoiré, un coup médiatique. Avant de s'attaquer aux retraites, à l'assurance chômage et à la sécurité sociale, après nous en avoir mis plein la gueule avec les ordonnances Macron, le CICE et la suppression de l'ISF.
Mais par contre, c'est effectivement dans la suite tout à fait logique de ce qu'ont été les ordonnances Macron et notamment ce que pose assez rapidement cette fusion des différentes allocations, c'est celle de leur financement. Et en fait, c'est d'arriver à un modèle assez rapidement où on ne considérera plus que, que c'est un revenu, un salaire indirect, toutes ces allocations et toutes ces charges que les patrons payent, qui sont en fait notre salaire qu'on récupère d'une autre manière, donc notre salaire indirect, c'est une manière d'effacer ça de nos fiches de paye, qu'on se rende beaucoup moins compte qu'en fait, ces choses-là, c'est d'abord le fruit de notre travail, quoi. C'est pas un cadeau que nous font les patrons, quoi.
Est-ce que ce revenu universel est différent de ce que quelqu'un d'autre proposait pendant la campagne électorale ? Je parle de Benoît Hamon.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, ouais, ça n'a rien à voir. Même si celui de Benoît Hamon était aussi une vaste fumisterie, mais celui-là n'a rien à voir. Ouais.
C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le revenu universel de Benoît Hamon, il était proposé également à tout le monde, alors que là, c'est juste une fusion de l'ensemble des allocations qui existent déjà pour arriver à un revenu qui sera même pas l'équivalent du RSA.
Allocations qui nous sont dues, oui, par notre travail et par nos cotisations sociales. Voilà.
Et on continue sur les affaires de l'État avec l'affaire Benalla.
Oui, puisque Benalla ira finalement rencontrer la commission d'enquête du Sénat le 19 septembre. On vous en dira sûrement un peu plus la semaine prochaine, mais il y a déjà quelques petites répliques qui valent la peine d'être relevées. À commencer par Benalla lui-même qui se plaint, et là je vous le cite tout de suite. On me contraint, on m'explique qu'on va m'envoyer des gendarmes et des policiers, alors je vais venir à la convocation parce qu'on me menace d'une manière directe. Alors peut-être que Benalla avait toujours été un fervent critique du pouvoir coercitif de l'État, mais il cachait vachement bien, et là on est à deux doigts de le plaindre. Il y a aussi Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui s'indigne parce que cette enquête signifierait rendre le chef de l'État responsable devant le Parlement, ce que la Constitution interdit formellement, ce qui d'ailleurs arrange bien tous les présidents. Du coup, c'est pas vraiment vrai que le Parlement enquête sur le président et l'audition porte plutôt sur le contexte des missions de Benalla à l'Élysée. Mais on est quand même un peu confus quand on se souvient du discours de Macron en juillet, quand l'affaire avait éclaté, et qu'il avait déclaré « S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher ». Voilà, on ne sait pas trop si on peut y aller. Apparemment, Nicole Belloubet dit que non, on ne peut pas. et puis, c'est tout pour le moment. Mais sûrement qu'il y aura encore plus de choses intéressantes à raconter après l'audition.
On fera bien un petit dossier Benalla à un moment.
Oui, bah, je pense qu'il il en vaut la peine.
Ouais, ça serait mérité.
Ça serait mérité, ça ne serait pas volé. Et la répression du coup des cheminots, on en avait parlé la semaine dernière avec un copain lyonnais, mais ça continue visiblement.
Alors bon, c'est ce que nous disait le copain lyonnais, hein. La SNCF s'acharne là depuis la fin du mouvement, depuis cet été, et là en cette rentrée hein, de septembre, elle continue à se venger de la grève et surtout donc des grévistes. Alors ce coup-ci, c'était pour Nicolas, cheminot à Lille et... lui aussi syndiqué, là, à Sudrail. Il fait donc partie des nombreux et des nombreuses cheminots-cheminotes poursuivis par la SNCF suite à la mobilisation et qui sont très souvent menacés de licenciement, pas uniquement, mais souvent menacés de licenciement via un conseil de discipline, donc interne. Nicolas, donc, il risquait d'être licencié pour avoir allumé une torche dans la gare. Vous savez, les torches, hein, SNCF, là, que tous les cheminots claquent dans les manifs. Voilà, bah, c'est pour ça qu'il était menacé de licenciement. Mais personne n'était dupe, évidemment. C'est un véritable tribunal patronal contre l'un des considérés comme leader sur l'île. Hein. C'était quelqu'un qui s'est beaucoup mis en avant et donc qui a été considéré par la direction comme un leader. Donc, sanction. Alors, Nicolas lui-même dit « En fin de conflit, ils veulent couper des têtes. » Et qui dit couper des têtes, dit conseil de discipline. Voilà, c'est leur tactique. Hein. Il a heureusement pu compter sur de gros soutiens. Vendredi, il y avait beaucoup de cheminots d'Île-de-France, énormément de militants de différents secteurs de la région de Lille et aussi les fameux postiers des Hauts-de-Seine en grève depuis 174 jours qui étaient présents. Alors, d'ailleurs, certains étaient à Lyon la semaine dernière. Hein. Ils sont allés à Lille ensuite et ils sont allés aussi à Bordeaux pour un autre cas, pour Laurent. Grâce donc à cette solidarité, le soutien et la défense ont réussi à arracher une, entre guillemets, simple mise à pied de 4 jours plus un dernier avertissement avant licenciement. Donc voilà, Nicolas s'en sort, il n'est pas licencié, mais il prend très cher pour que dalle. Donc la répression continue à la SNCF.
Et on va tout de suite passer à l'info locale, du coup, avec l'agression, la discrimination homophobe au Sirius.
Absolument. Vendredi dernier, discrimination homophobe à l'entrée du Sirius. Donc, pour celles qui ne savent pas, l'une des péniches qui font bar et boîte de nuit sur les quais du Rhône. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un groupe de camarades, un mec et 5 meufs, dont 4 lesbiennes, et dont les looks pouvaient être interprétés comme lesbiens, arrivent à l'entrée du Sirius. Le videur leur refuse l'entrée. Et le motif de ce refus, le videur, assez vénère, le donne en ces termes à une camarade aux cheveux bleus, je le cite, « c'est pas carnaval », fin de citation. Puis il reprend son boulot habituel, c'est-à-dire essentiellement ne laisser entrer que les hétéros blancs avec leur look random de merde. La discrimination à l'entrée des boîtes, pour les personnes perçues comme lesbiennes, comme trans, comme gays, c'est pas vraiment rare dans notre bonne vieille ville de Lyon, bourgeoise et catholique. Elle qui accueillait d'ailleurs, ce week-end, dans l'hôtel Mercure de Perrache, un colloque contre la PMA, organisé par les catophaf de la Manif contre tous. Encore un bel exemple de ce que des entreprises capitalistes et la réaction homophobe peuvent volontiers s'entendre comme larron en foire. Finalement, de telles discriminations, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, des violences et des oppressions que nous, trans, PD et Guine, subissons tous les jours dans cette société. Mais quand on a un ennemi clair, au moins on sait où frapper. Et là où ça fait le plus mal, c'est toujours au portefeuille. Par conséquent, trans, PD, Big Win et nos alliés boycottaient le Sirius.
Alors, on continue donc avec le dossier. Là, puisque voilà, on passe au dossier. Donc le dossier, c'est sur la loi Elan. La loi Elan, donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Joli nom. Alors les gros points de cette loi, c'est la criminalisation des occupants sans titre d'un lieu vide, donc qui pourrait aller jusqu'à un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Pour rappel, aujourd'hui, seule l'entrée pour effraction dans le domicile d'autrui est pénalisée. Cette peine de prison pourrait viser les occupants de logements vacants, même les locataires au black, comme par exemple les sous-locations, ou pire, un propriétaire qui vous loue son appart au black, c'est quand même vous qui pourrez prendre donc cette condamnation. Il y a un article qui est très intéressant, c'est l'article 58 qui met en avant la possibilité d'expulser l'hiver, réduit les délais pour une expulsion de 2 mois à 1 mois, quand normalement il y a une ordonnance pour expulser, on peut avoir 2 mois de latence et là ça passerait à 1 mois. Et l'article 58 ter prévoit la possibilité d'une expulsion express sans jugement des occupants d'un local à usage d'habitation ne pouvant prouver qu'ils y sont installés avec accord du propriétaire. Donc on pourrait même maintenant ne plus passer par la justice pour expulser des squats. Trois autres gros points, c'est les consommateurs de stupéfiants et leurs familles pourraient être expulsés de leur logement. À Guyane et en Mayotte, les maisons informelles ou autoconstruites pourront être détruites sur simple ordre du préfet, sachant qu'en Guyane, ce sont des milliers de familles qui vont être concernées sur des quartiers qui ont plus de 15 ans, qui a une très grosse spéculation immobilière. Il y aura également une accélération des expulsions des locataires endettés. L'invention d'un bail précaire pour les jeunes travailleurs du parc, pour les jeunes travailleurs tout court. Et donc, pour finir, une diminution du parc de logements sociaux en favorisant la privatisation jusqu'à 40 000 logements sociaux par an et en affaiblissant les obligations des communes en matière de logement social. Il y aura la création d'un bail locatif appelé bail mobilité. C'est un bail extrêmement court destiné aux étudiants, aux apprentis, aux stagiaires, aux services civiques ou à n'importe quel travailleur en contrat court de 1 mois à 10 mois. Donc c'est plus précaire que ce bail, tu meurs en gros. un assouplissement de la loi littorale de 86 qui permettra de construire dans des zones qui étaient inconstructibles depuis. Et pour terminer, donc, la remise en cause de l'encadrement des loyers prévus par la loi Allure pour des zones dites tendues. Il y avait 28 agglomérations concernées avec la loi Elan. L'encadrement de ces loyers ne sera plus que facultatif et expérimental. Et dernière énorme dégueulasserie de cette loi Elan, eh bien, je laisse la parole à notre amie présente.
Oui, ce soir, c'est sur un autre aspect bien dégueulasse de cette loi que nous allons nous concentrer, à savoir le fait qu'elle précarise davantage encore les possibilités de logement pour les personnes handicapées. En passant d'une norme qui était de 100% de logements neufs qui devaient être accessibles aux personnes handies, selon la loi handicap du 11 février 2005, à seulement 10% de logements immédiatement accessibles et 100% de logements dits évolutifs. Nous avons donc interviewé No Anger, qui est une blogueuse handy, autrice du blog À mon geste défendant, que je vous recommande à toutes. Donc No Anger, première question, quelle était la situation dans l'accès au logement pour les personnes handy avant la loi Elan, et en quoi cette nouvelle loi va-t-elle empirer cette situation ?
La situation n'était déjà pas terrible avant, puisque la loi de 2005 ne prévoyait déjà pas 100% des logements neufs accessibles. L'obligation d'accessibilité ne concernait que les logements au rez-de-chaussée ou à l'étage, si l'immeuble était doté d'un ascenseur. Mais comme l'ascenseur n'est obligatoire que pour les constructions de 5 étages ou plus, ça exclut tous les petits immeubles de 2 ou 3 étages. En somme, sur les 155 000 logements neufs qui se construisent chaque année en France, 109 000 sont effectivement accessibles. Ça ne représentait donc déjà qu'une infime partie du parc immobilier. Ce que moi, je peux dire, c'est que c'était déjà bien galère avant de trouver un logement. Je me souviens, quand j'ai dû déménager à Lyon pour poursuivre mes études, du stress que ça a été pour trouver un appart où je puisse accéder en fauteuil roulant. La plupart des immeubles n'avaient pas d'ascenseur, ou un ascenseur minuscule, ou bien avait des marches à l'entrée de l'immeuble, ou encore, des marches pour accéder à l'ascenseur. J'ai jamais compris ce dernier principe, mais bon, j'ai fini par trouver un logement dans une résidence étudiante qui venait juste de se construire. Avec la loi Elan, ça veut dire que 90% des logements neufs ne pourront pas accueillir des locataires handicapés, et du coup, la question qui se pose, mais qu'on élude, c'est où est-ce que nous, personnes handicapées, allons vivre ?
Alors, deuxième question, la loi Elan fait la distinction entre logement accessible et logement évolutif. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence et qui aura à payer les travaux nécessaires pour rendre accessible un logement qui est dit évolutif ?
Les logements accessibles, ce sont des apparts qui seront livrés, déjà adaptés, pour accueillir des personnes handicapées. Quant aux logements évolutifs, cela veut dire, selon Madame, notre chère secrétaire d'État aux personnes handicapées, ouvrez les guillemets, tout simplement que des travaux pourront être faits très facilement, à moindre coût, pour le moduler, et pas à la charge des personnes, pour tout ce qui ressort des logements sociaux. Les logements évolutifs, ce sont donc, en gros, des appartements, pas déjà accessibles, mais qui peuvent facilement le devenir. Et, à moindre coût, personnellement, je n'y crois pas trop, au moindre coût. Déjà, parce qu'un propriétaire choisira, presque toujours, le dossier d'un locataire valide, s'il a à choisir entre un ou une locataire valide et un ou une locataire handy, dont la présence dans l'appartement s'accompagnera de modifications opérées sur le bien qu'il possède. Ça représente déjà un coût symbolique pour le ou la locataire handicapée qui aura encore et toujours à composer avec cette discrimination-là. Et puis, comme tu dis dans ta question, il y a les coûts financiers que représente l'adaptation de l'appartement. Madame, notre chère secrétaire d'État reste assez floue sur la question. Est-ce au propriétaire ? Et, dans ce cas-là, c'est foutu, il ou elle ne prendra jamais de locataire handicapé. Est-ce aux acteurs publics ? En ce cas, vu la fréquente lenteur administrative, les sommes nécessaires aux aménagements risquent d'être débloquées 6 mois après l'installation du ou de la locataire handicapé dans l'appart Est-ce à la locataire ou handicapée, elle-même, qui est rarement milliardaire, et peut difficilement assurer le loyer et les travaux d'aménagement? Oui, parce que, comme je dis souvent, un handicapé, c'est fait pour être pauvre.
Alors, selon Eddy de Jacquemart, qui est le président de la CNL, la Confédération nationale du logement, cette loi présente un risque de désocialisation pour les personnes handies. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Parce que, très concrètement, pour moi comme pour d'autres, ça veut dire ne plus pouvoir aller chez mes amis, mes amoureuses et mes amants, amantes. Déjà que, là, c'est assez épique. J'en profite d'ailleurs pour saluer les biscottos et les réflexes de chacun et chacune. Donc, ça veut dire adieu, apéro. Adieu, soirée câlin. Adieu, soirée houmous. Ça veut dire aussi beaucoup de difficultés si je veux partir en week-end et me louer un Airbnb. Ça veut dire également, quand je suis en déplacement professionnel, à Paris par exemple, devoir payer l'hôtel et ne pas pouvoir être hébergé par une amie, ce qui fait que, peu à peu, je vais réduire mes déplacements professionnels. Parce qu'au final, je me dirais que devoir payer 100 euros la nuit d'hôtel pour une conférence d'une heure maximum, ça ne vaut pas le coup. Et peu à peu, ça risque de peser sur ma carrière professionnelle. Du coup, oui, avec la loi Elan, il y a un fort risque de désocialisation au sens large. J'aimerais aussi ajouter que, personnellement, la loi Elan m'a foutu un gros coup dans la gueule. Parce qu'on me dit, mettre aux normes handicap coûte plus cher. D'accord, mais ça ne viendrait jamais à l'esprit de faire des économies sur la mise aux normes des systèmes électriques ou antisismiques, d'inscrire ça dans la loi. Là, mon exclusion est directement inscrite dans la loi. C'est comme si le législateur me disait, nous disait à nous, personnes handicapées, tu ne comptes pas. Vous êtes quantité négligeable. Et ça, c'est une couleuvre symbolique qu'on essaye de nous faire avaler, mais qui, moi, me fait vomir.
Y a-t-il eu des concertations entre le gouvernement et les associations de personnes concernées autour de cet aspect de la loi?
C'est ambigu, mais je vais essayer de rester très factuel, et vous en tirerez vos propres conclusions. Madame, notre secrétaire d'État aux personnes handicapées affirme que les associations sont au courant, qu'elles se sont toutes réunies autour d'une table, notamment pour expliquer la notion de logement évolutif, et qu'un certain consensus a pu être établi. Les grandes associations, comme APF France, formulent des critiques contre la loi Elan, se disent furieuses, mais n'ont jamais, je crois, demandé son retrait pur et simple. Les manifestations ont été rares, de la part de l'APF pour visibiliser, un tant soit peu médiatiquement, les oppositions à cette loi. Il faut savoir que, des grandes associations, comme l'APF sont gestionnaires des institutions, où sont placés enfants et adultes handicapés. Une partie du fonctionnement de ces associations, notamment leur fonctionnement salarial, se fonde sur la pérennité de ces structures. Il faut savoir, aussi, que fin 2017, un rapport préliminaire des Nations Unies est sorti, s'inquiétant des mauvaises conditions de vie des personnes handicapées en France, et fustigeant ouvertement ces institutions et structures. Il faut savoir, enfin, que durant l'année 2018, et concomitamment à l'élaboration de la loi Elan, le secrétariat d'État aux personnes handicapées a encouragé l'idée de la création d'habitats partagés. Ce sont des logements gérés par les grandes associations et habités par des personnes handicapées qui mutualisent les aides humaines et financières qui leur sont allouées. Ce qui est à craindre, c'est que, très vite, on se retrouve avec une auxiliaire de vie pour 3 ou 4 personnes handicapées. Ce qui, concrètement, veut dire devoir attendre son tour pour l'aide au repas et risquer de manger à 14h au lieu de midi. Pareil pour l'aide à la toilette. Pareil pour l'aide au coucher. Et imaginons que ces personnes ont une activité professionnelle, des horaires à respecter. L'organisation de leur quotidien peut devenir hyper pesant. Du coup, ça signifie une nette diminution de la qualité de vie pour ces personnes-là, et encore une fois, un frein à notre vie sociale et professionnelle. Mais, les habitats partagés existaient déjà avant 2018, même si on ne les appelait pas comme ça. Et si tu me le permets, je conclurai sur cette question en racontant qu'à mon arrivée à Lyon, toujours pour ma recherche d'appart, J'ai visité un logement géré par une grande asso. Au premier entretien, on me dit, pas de visite de personnes extérieures le premier mois, ni de contact avec la famille. On vous donne 50 euros par mois et on vous apprend à les gérer. À l'époque, j'avais 21 ans, je sortais de prépa et j'entendais vivre pleinement ma nouvelle vie d'étudiante et non une incarcération infantilisante. Je fais partie de la première génération d'enfants handicapés à être massivement allés à l'école en milieu ordinaire puisque, dans les années 2000, notre scolarité est devenue un droit alors qu'avant, nous étions destinés à aller en institution. Nous avons donc reçu une éducation empreinte de valeurs libérales, et nous nous savons citoyens et citoyennes légitimes, et porteurs de droits. Les propositions du gouvernement et des grandes associations ne me semblent pas prendre en compte cette nouvelle réalité sociale.
Quelles ont été les réactions de la part des associations, justement, et est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement social contre cet aspect de la loi Élan cet automne ?
Réaction molle de la part des grandes associations. Réaction plus virulente de collectifs handi, moins institutionnalisés, mais très actifs sur les réseaux sociaux, notamment le CLE, le collectif Lutte et Handicap, pour l'égalité et l'émancipation, qui réclame la désinstitutionnalisation des personnes handicapées en France, et prépare quelque chose contre la loi Élan. J'ai aussi entendu parler d'actions, comme des blocages, dont un, à Toulouse, opéré par le collectif handi social, qui a bloqué un convoi d'Airbus, ou alors, un autre, qui a eu lieu à Lyon, organisé par l'association France MS. Il faut espérer que le mouvement ne s'essouffle pas cet automne.
Dernière question. Ces dispositions semblent à l'intersection de la domination capitaliste, puisqu'il s'agit bien de laisser les mains libres aux proprios, aux régies et aux promoteurs immobiliers, et de leur permettre de faire des économies, et de la domination validiste, visant spécifiquement les personnes handi. Peux-tu nous expliquer en quoi cette loi s'inscrit dans un validisme qui est systémique dans notre société ?
Je me permets de vous renvoyer au blog Mediapart de ma pote, Elena Chamorro. Elle y a publié un très bon article intitulé « Loi Élan, le message des députés aux personnes handicapées » qui montre comment, dans le cas de la loi Élan, oppression capitaliste et oppression validiste sont intrinsèquement liées. Cet article est intéressant, notamment parce qu'il montre comment la rhétorique des promoteurs de la loi Élan dresse les personnes pauvres et précaires les unes contre les autres. Il y a les valides pauvres et il y a les handicapés pauvres. Et on dit aux valides pauvres que c'est à cause des normes au handicap que leur confort de vie est altéré, qu'on doit faire des chambres minuscules, à cause de la superficie excessive, des salles de bain adaptées, alors qu'une salle de bain, de 5 mètres carrés, suffit pour répondre aux normes au handicap. Si les chambres sont minuscules, c'est plutôt à cause des promoteurs, qui veulent économiser, sur la superficie des chambres. Mais, Elena Chamorro l'explique mieux que moi, dans son article. Je finirai en disant que, oui bien sûr. Tout cela renforce le validisme systémique, parce que cette rhétorique, mais surtout, l'inscription de notre exclusion, dans la loi même, délégitime notre présence, dans la vie quotidienne, et sociale. J'insiste bien là-dessus. Ce qui est le plus violent, c'est qu'avec la loi Élan, elle égalisait l'exclusion sociale, de toute une partie de la population, qui, à n'en pas douter, n'a de cesse de croire, dès lors, en l'égalité, la liberté et la fraternité. Merci à toi de m'avoir invité à parler de tout ça.
Et merci à toi, Noenger, pour tes réponses.
Oui, on suggère la lecture de son blog. Mon geste défendant, voilà. On va passer tout de suite à l'agenda de la semaine qui est assez chargé.
Je sais. Ah, on m'entendait pas peut-être.
Ouais, là, on entendait très peu.
Et du coup, je disais, on passe à l'agenda de la semaine qui est assez chargé. Donc demain, mardi 17 à 14h, c'est la première AG de rentrée à la fac. Et ça se passera dans la cour centrale du campus des quais.
Mardi 18. On est le 17, c'est
oui,
pour ça.
Oui, tout à fait. Ah ouais. Parfaitement.
Je me permets de...
Tout à fait. Et donc mercredi 19 à 18h30 à la maison de la Mésopotamie qui se situe 11 rue Mazagran dans le 7e, il y a un tour de présentation de la campagne Nico Libero pour la libération de Nicolo, un jeune antifasciste turinois qui est en détention préventive.
Mercredi, toujours juste à côté, à l'Amicale, rue Sébastien Griff, à 18h30, ce sera la projection de Istmenio, Le Vent de Révolte. C'est un film autour des luttes indigènes à Tehuantepec, dans le sud du Mexique. C'est une lutte indigène qui s'oppose à un parc éolien. Jeudi, alors on va en parler un petit peu plus longuement, puisque c'est un rassemblement de soutien pour deux camarades qui passent en procès à 14h au TGI. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, le 1er février dernier, Kim El Felt s'était fait enfariner après avoir fait voter notamment un budget de 1,8 million d'euros pour la surveillance des bâtiments vides appartenant à la métropole. Donc à la suite de ça, il y a deux personnes qui avaient été interpellées suite à cet enfarinage. Ils sont aujourd'hui poursuivis pour violence aggravée. Et donc ce jeudi se déroule leur procès. Pendant leur comparution devant le tribunal, il y aura un grand procès populaire de la métropole pour rappeler que cette violence pâtissière est bien peu de choses quand on voit les agissements de la métropole, notamment concernant l'accueil des mineurs isolés dont elle est censée... qu'elle est censée prendre en charge et qu'elle laisse dormir à la rue depuis de nombreux mois. Donc voilà, c'est jeudi à 14h, rue Servian, au 67. Et le soir, il y aura un bar de soutien aux copains et plus généralement à la caisse de solidarité. Et c'est à 19h, à partir de 19h, à l'atelier des canulars, rue Montesquieu. Et samedi, toute la journée, il y a une journée d'études à l'ENS autour du théâtre et du militantisme. C'est un événement sur inscription, donc il faut envoyer un mail, vous trouverez l'adresse sur Rébellion. Et c'est surtout l'occasion de revoir l'excellente pièce de Waninga, C'est quoi le problème, qui est une création issue de l'atelier du collectif jeune de RESF. Et puisqu'il nous reste un petit peu de temps et que quand même... la semaine dernière, Rachid Taha nous a quittés et que c'est un Lyonnais et surtout on n'a plus notre nécrologue attitré. Du coup, on a décidé de passer une petite chanson de Rachid Taha.
Ça c'était le générique d'introduction de l'émission.
Ouais. On recommence.
Sinon, il aurait bien changé, Rachid Taha.
Mais oui, bah. Je sais pas si on va l'avoir.
Oui, on va le trouver.
Sinon, moi, j'ai un petit sujet en rab qui a été squeezé la semaine dernière.
Tu veux pas chanter plutôt, non?
Ah, je peux chanter Abdelkader, mais c'est 1, 2, 3 soleil avec Faudel.
Essaye. Essaye.
C'est bon, j'ai trouvé.
Ok. Voilà, donc on a écouté Rachida, Yaraya, donc hommage à Rachida qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ce Canu Info du lundi se termine et donc on se retrouve la semaine prochaine.
Pour de nouvelles aventures.
Pour de nouvelles aventures, tout à fait. Allez, bonne soirée.
Session post-punk sur les bandes continues de Radio Canu, alors avec différentes kind of post-punk. Pour commencer avec Colin Newman, le chanteur de Wire, son premier et magnifique album avec le morceau Injury. On ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Le suivant morceau, c'est Lescope avec La Forêt, un tube pour faire danser en boom. Et le dernier morceau, un groupe qui nous vient de Tulle, ville de Jacques Chirac et de François Hollande, et également de ce groupe qui se nomme Inna. Le morceau s'appelle Concrète et ça vient de sortir à l'heure où je vous parle.
Young and old generation.